5 personnes interpellées, 5 policiers blessés. La maire de Nantes, Johanna Roland, condamne les actes des casseurs sur Twitter et affirme « Nantes ne veut plus de samedi d'affrontement dans son centre-ville ». À noter également des heures en fin de parcours à Nancy où 700 gilets jaunes ont défilé. À Paris, le cortège s'est dispersé dans le calme. Si l'élection pour la mairie de Paris avait lieu aujourd'hui, Anne Hidalgo serait réélue. C'est ce que révèle un sondage IFOP pour le journal du dimanche et Sud Radio. La maire PS sortante arrive en tête des intentions de vote avec 24% des voix, 7 points devant le candidat investi par La République En Marche, Benjamin Griveaux. Cédric Villani, le marcheur dissident, pointe au troisième rang avec 15% des intentions de vote. L'Afrique de l'Ouest organise sa lutte contre le terrorisme. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prévoit 1 milliard de dollars sur 4 ans pour combattre le djihadisme. Cette année, des groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique ont renforcé leur présence dans la région du Sahel. Conséquence, de vastes territoires sont devenus ingouvernables. La violence ethnique locale est attisée, notamment au Mali et au Burkina Faso. Boris Johnson affirme que d'énormes progrès sont en cours avec Bruxelles pour aboutir à un accord sur le Brexit. Dans un entretien pour le journal Mail on Sunday, le Premier ministre britannique en vient même à comparer son pays au super-héros Hulk, car plus il est en colère, plus il devient fort. Les Parisiens s'installent en tête du classement de la Ligue 1 de football après leur victoire contre Strasbourg 1-0 hier soir. C'est l'attaquant brésilien Neymar qui offre la victoire à son équipe. Neymar qui affirme qu'il est temps de tourner la page, faisant référence au feuilleton estival au cours duquel il a tenté de quitter le PSG et qui avait monté les supporters contre lui. La cinquième journée continue ce dimanche avec 3 matchs, dont un alléchant Monaco-Marseille. Coup d'envoi à 21h. Bonne journée à tous.
C'était votre flash info qu'on retrouvera dès 11h sur RVE. Et avant de retrouver Philippe et son équipe, eh bien on aura un point météo pour la journée avec un ciel ensoleillé qui nous attend et des maximales à 25 degrés attendus. Et à présent, eh bien c'est votre émission Tribune Sport jusqu'à 11h présentée par Philippe Carnus sur RVE. Très bonne écoute et belle journée à tous.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnus.
Nous revoilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour cette première émission de la saison 2019-2020. Ça nous amènera très loin, hein, puisqu'on fera le triptyque Euro de foot, Tour de France, Jeux Olympiques. On va auparavant revenir sur ce bel et fol été que l'on a vécu. On s'était quitté le 30 juin dernier, on avait pris notre quartier d'été, mais on a continué à travailler tout l'été à travers ces trois gros événements sur lesquels on va naturellement revenir. On va commencer avec le Tour de France, on enchaînera avec l'Équirondo et puis on finira avec le Paris-Brest-Paris. Je vais saluer ceux qui sont avec nous ce matin, qui ont beaucoup travaillé. Beaucoup œuvré comme nous, et on va d'abord l'avoir au téléphone parce qu'il s'est accordé un petit week-end de repos chez notre ami Gaël Barbotin. Gaël, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Dans quel état d'esprit est-on comme ça, un mois après la fin de ce fol été? Il n'y a pas une petite déprime?
Il n'y a que du bonheur, pourquoi? Parce qu'en fait, à Rambouillet cette année, on a eu un été donc exceptionnel, à la fois par le climat, avec des aléas, sécheresse, humidité, on va dire ça comme ça, et puis surtout parce que le sport a été à la fête pendant l'intégralité du mois d'août. Ça a commencé le 28 juillet, et puis bien évidemment, ça s'est poursuivi, comme tu le disais tout de suite, cher Philippe, par de très belles randonnées équestres et cyclistes, dont Rambouillet était le point névralgique.
On va rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord saluer ceux qui ont aussi beaucoup travaillé, notre ami Olivier Bourdin. Salut Olivier, présent de la section cyclisme de Poigny, Rambouillet. Olivier, ça va? Quel Tour de France, on s'est régalé.
Oui, bonjour à tous. Oui, on a un super Tour de France, super organisation, super scénario. Et puis, finale à Rambouillet, très très bien. Et, voilà, une belle organisation, très lourde, mais bien.
Alors, lui aussi a beaucoup travaillé. Hein. Il a tiré le continent entier à travers la manifestation Le Paris-Brest-Paris. C'est Didier Chausset, le président des cyclotouristes de Rambouillet. Bonjour Didier, comment ça va?
Bonjour à tous.
Ça va bien, ça y est, on a récupéré.
Il n'y a pas une petite décompression comme ça après? Parce que c'est vrai que vous avez travaillé sur des épreuves des mois et des mois, voire même un an avant. On en a beaucoup parlé avec Gaël, hein, de cet été sportif. Quand ça s'arrête, on est comment?
Le gros de la journée sur le Paris-Brest, c'était le jeudi avec les arrivées.
Oui.
Globalement, jusqu'au jeudi, je dormais à peu près une heure par nuit et un repas par jour. D'un seul coup, l'énergie tombe, quoi.
C'est pas facile à tenir. Et puis surtout qu'il faut quand même rester mobilisé parce que dès le lendemain, on devait rendre l'ensemble du site tout bien, comme si on n'avait pas été là. Et quand on voit les installations qu'il y avait, il fallait pas rallonger.
Olivier, pareil, même sentiment, même ressenti?
Même ressenti, c'est-à-dire qu'une fois l'événement fini, comme Didier, pour faire un mètre à pied, on a du mal, hein, on a du mal à arquer, comme on dit. Donc la nuit est repos, mais le lendemain, comme on dit, il faut rendre les sites. Donc il faut remettre au moins pendant 24 heures, 48 heures, ranger. Mais c'est vrai qu'une fois que la pression est tombée, d'un seul coup, on a l'impression d'être des robots. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de jus et on n'avance plus.
Gaël, 80 000 personnes sont venues cet été sur Rambouillet, il faut le dire. Avec les trois manifestations, on a battu les records. 80 000 et les 5 continents.
Je pense que là, on a vraiment... Oui, tu parles de battre les records. C'est-à-dire que si on parle dans un contexte sportif, je dirais qu'on s'est donné des défis. Parce que c'était des défis, c'était trois manifestations sportives. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des résultats qui sont à la hauteur de ce que l'on espérait. 80 000 personnes, c'est même une fourchette basse. C'est pour être raisonnable dans nos estimations, puisque le Tour de France, c'est environ 55 000 personnes, entre 10 et 12 pour les Kirando. Et puis, on peut 7 000 coureurs, plus leurs familles, leurs amis qui sont venus. Oui, on se retrouve au bas mot à 80 000, 85 000 personnes, voire un peu plus.
Ça fait deux fois Rambouillet.
Ça fait quasiment plus de deux fois, largement plus de deux fois. Voilà. Et donc, on se retrouve avec une ville qui a accueilli en l'espace de 30 jours un ensemble de manifestations qui, à la fois, ont été appréciées. Là, je suis justement, tu le disais tout à l'heure, j'ai enfin pris deux jours, pas plus, dans le sud. Et ça me permet simplement le dépaysement. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en étant ici, je retrouve des gens qui ont fait la Paris-Brest-Paris au départ de Rambouillet et qui en parlent comme étant quelque chose vraiment d'extraordinaire. Quoi. C'est, dans quatre ans, on a hâte d'y revenir. Et là, c'est là où moi, je me dis que le pari est gagné. Quoi.
Et puis, Gaël, aussi, autre chose positive, nos amis commerçants, ils ont peut-être jamais aussi bien travaillé, ils travaillent bien l'été, mais là, jamais comme ça.
Moi, c'est un vrai plaisir, parce que je crois qu'ils ont même été surpris. Je dirais que Didier m'avait prévenu, Didier Josset m'avait prévenu, bonjour Didier, bonjour Olivier, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Mais Didier m'avait prévenu, il m'avait dit, tu vas voir, ça draine un monde, etc. Donc, on avait fait en sorte de mobiliser les commerçants pour les sensibiliser au fait que, notamment, cette épreuve, cette randonnée cycliste, allait engager derrière une activité commerciale forte. Certains y ont adhéré tout de suite, ont tout de suite compris quels étaient les enjeux. D'autres attendaient de voir, mais sont restés mobilisés, se sont mobilisés malgré tout. Et puis d'autres ont dit, de toute façon, on verra ça plus tard. Laissons certains s'engager et puis nous, on prendra... Eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est que bien évidemment, puisque c'est une épreuve qui se déroule tous les 4 ans, eh bien que la mesure des choses ait été prise et que dans 4 ans, la ville de Rambouillet, avec l'ensemble des partenaires et notamment le CTR et puis l'ODAX, bien évidemment, on puisse faire un nouveau défi sur cette belle épreuve.
Oui, donc ça va devenir un rituel. Tous les 4 ans, il y aura maintenant le départ du Paris-Brest-Paris depuis Rambouillet.
Alors là, la question, il faut la poser à Didier, parce que c'est important, et ça, c'est un axe politique fort, en tout cas en tant que délégué au sport, ça a toujours été mon leitmotiv, c'est de dire que le sport ne peut se réaliser et se développer sur la ville qu'à partir du moment où il y a des acteurs qui sont complètement mobilisés dessus. Et que la ville n'a pas vocation à suppléer, en fait, l'engagement et le souhait des personnes de se mobiliser sur des projets. Ça a été le cas, notamment dans le cadre de la Paris-Brest-Paris, puisque Didier pourra en témoigner. Quand il est venu me voir, il me dit, voilà, j'ai un projet, il y a l'ODAX, etc. Est-ce que la ville veut prendre le relais? J'ai dit à Didier, je m'en souviens, comme si j'y étais. Écoute, je vais être très clair avec toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous vous en parliez du sujet avec l'ODAX, mais que ce soit bien le CTR qui, dans le cadre de son implication, puisse derrière réaliser ce projet sportif et de loisirs, puisqu'on est quand même sur la logique de randonnée. Certains y sont allés avec l'idée plutôt de faire de la découverte qu'un espèce de défi sportif personnel. Donc, on se retrouve avec là, vraiment l'axe majeur qui était celui que moi j'ai conduit là au niveau du sport, maintenant depuis 13 ans, qui est de dire il faut que les associations s'emparent du sujet sportif. Et bien évidemment, on est là, nous, pour les accompagner, mais surtout pour leur laisser la maîtrise de leur projet. Et là, on voit le résultat.
Didier, Paris-Brest-Paris, tous les 4 ans depuis Rambouillet maintenant.
Moi, je vais tout faire pour. Ce qui est clair, c'est que... À mon avis, il y a d'autres villes qui vont se porter candidates parce que c'est quand même un gros atout pour une ville de recevoir une telle manifestation. Comme a dit Gaël plusieurs fois, on a montré notre savoir-faire. Globalement, les participants sur le retour qu'on a ont été juste émerveillés par le site de la bergerie. On a eu une météo super pour le retour. Donc il y avait des gars partout dans les prairies sous les arbres qui récupéraient, ils étaient pas stressés, ils étaient pas les uns sur les autres. Donc on a matière à améliorer bien sûr, mais globalement, je pense qu'on a montré ce qu'on était capable de faire sur ce site de la bergerie. Et ça, c'est un gros atout. On attend les retours des participants. Les réseaux sociaux nous aident beaucoup là-dessus. On aura de toute façon une réunion cet automne de débriefing. Mais je pense que globalement, on a mis un petit peu tout de notre côté pour être capable de le refaire dans 4 ans.
Oui, parce qu'il y a eu 2500 bénévoles de réquisitionnés, 178 communes traversées quand même. Donc vous avez travaillé aussi en harmonie avec d'autres localités. Ça, c'est hyper important. Et justement, la remise des trophées ODAX, elle aura lieu le dimanche 12 janvier 2020 à l'espace Charenton.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Tous les les partenaires, les participants sont invités. Et là, il y a une belle cérémonie. C'est une grosse cérémonie de clôture. Ils ont déjà eu leur médaille, mais ils vont recevoir encore, par exemple, sur les médailles, ils avaient une place qui était prévue où il y aura leur nom, leur temps, etc. pour les personnaliser. Donc tout ça, les gars vont recevoir ça par un poste, mais certains vont pouvoir venir pour des récompenses.
6673 coureurs, 66 nations, on l'a dit, il y avait plus de 2000, c'est ça, kilomètres.
Il y avait 1200 kilomètres. Mais c'était très très dur. On a eu plus de 1700 abandons. Cette édition, elle a été un petit peu particulière. On a eu beau temps, ça c'est bien, mais le vent a tourné pendant l'épreuve. Parti vent de face, ils sont revenus vent de face. Il a fait froid la nuit. L'avant-dernière nuit, la nuit de mardi à mercredi, il a fait 2 degrés à Poigny. Quand les gars ont traversé les monts d'Arrée, ils étaient dans le brouillard, grosse humidité, ils avaient entre 2 et 4 degrés de température. Donc on a eu plus de 1700 abandons.
Gaël, c'est une belle aventure humaine sur les 1200 kilomètres.
Moi, je confirme sur les retours que j'ai pu avoir, justement, comme quoi, par rapport à ceux qui ont déjà eu l'occasion de réaliser cet exploit, j'irai l'aller-retour à l'époque entre Voisins et Brest sur la dernière édition, eh bien, c'était certainement une des plus difficiles Paris-Brest qu'ils aient eu à vivre. Avec justement les conditions que décrivait Didier, on s'est retrouvé avec des gens qui, pour pouvoir réussir, ne pouvaient être que des vrais athlètes, quoi, quelque part. Si jamais ils voulaient vraiment faire dans les temps, les 90 heures imparties, s'ils voulaient pouvoir réaliser leur aller-retour. Donc là, vraiment un vrai défi. En tout cas, moi, je tire mon chapeau à tous ces gens qui, en fait, font d'un loisir un défi sur eux-mêmes, mais dans un esprit. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est vrai dans le domaine du vélo, c'est vrai dans d'autres sports, d'autres activités, mais je l'ai vu aussi bien sur le Tour de France que sur le Paris-Brest-Paris, que dans les clubs, etc. On se retrouve avec un sport dans lequel la solidarité est nécessaire. C'est-à-dire que on ne peut réussir que si on n'est pas tout seul. Même si on est seul sur sa machine, quelque part, autour, il y a une équipe, il y a une mobilisation qui se met en place. Après ça, à l'intérieur même, il y a des équipes qui évoluent ensemble. Et dans un contexte comme celui-là, on se retrouve avec des sportifs qui ont une humilité qui est assez grande. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Derrière, c'est la possibilité d'être très proche des uns et des autres, d'avoir cette possibilité de côtoyer à la fois donc des grands sportifs, je pense au Tour de France, quand on se retrouve avec Alaphilippe qui vient avec un grand sourire dire bonjour aux uns et aux autres, j'irais vraiment toute simplicité, ou le coureur, ce monsieur là que je viens de croiser qui a 74 ans, il pourra peut-être être identifié, qui a fait la Paris-Brest-Paris, on se retrouve avec des gens qui sont d'une approche d'une simplicité absolue, quoi.
C'est vrai que c'est la belle image. Allez, on va revenir donc dans la chronologie sur ces événements. C'était le 28 juillet, Olivier, c'était la troisième fois que Rambouillet recevait le Tour de France. Je voudrais d'abord remercier nos auditeurs, parce que nous on était en direct entre 13h et 18h sur la terrasse du restaurant d'André Bisson, et je voudrais remercier les très nombreux auditeurs qui nous ont envoyé, comme on était relayé par Facebook, ils ont envoyé des likes, ils se sont passionnés pour le Tour, et c'est vrai que cette année, nous qui sommes des vieux suiveurs, vous allez régulièrement sur le Tour en tant que présent de club, nous on y va souvent en tant que journaliste, on s'est régalé, c'était le plus beau Tour depuis 89.
Depuis très 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 longtemps.
Et on y était à l'époque déjà.
Oui, mais voilà, oui, c'est vrai que c'est un Tour animé, magnifique. Les acteurs ont été présents au terrain qu'avait proposé ASO. Mmh. ASO, depuis maintenant une dizaine d'années, propose des terrains justement pour que la course soit spectaculaire, ouais. Qu'il soit différente tous les ans. Différentes années, ce n'était pas forcément présent, bloqué par une des grosses équipes. Là, cette année, avec la génération Alaphilippe, Wout van Aert, tout ça, que ça a dynamisé ce Tour.
Et comme le disait Gaël, des types bien en plus.
C'est une bonne mentalité. On voyait même les coureurs. Tous les coureurs, du premier au dernier, ont été contents, même ceux qui ont eu des difficultés. On sentait plus d'envie cette année que les années précédentes dans le Tour. On voyait aux interviews en fin d'étape, les gars étaient présents. T'es vraiment motivé, une motivation énorme pour faire présenter leurs équipes sur les échappées de longue distance. Mais au moins, ils étaient là, ils ont une dynamisation. Et puis,
L'équipe Ineos, ça peut-être pas autant dominé que les Sky.
C'est peut-être ça notamment. Aussi que j'irais de ce côté-là, ce profil-là, redynamiser le Tour de France qui a perdu un peu de sa notoriété depuis une dizaine d'années. Mais je pense qu'avec l'avenir des jeunes qu'on a, là, les Van Der Poel, les Van Aert, Poppel, Alaphilippe, j'irais les Froome et les Liggins, il va falloir qu'ils se redynamisent. Parce que sinon ils vont pouvoir rester dans leur garage. Parce qu'imaginez un Alaphilippe qui gagne le Tour de France cette année, Wiggins et Froome, ils peuvent reprendre leur retraite. Parce qu'eux qui font juste une course dans l'année, Alaphilippe qui fait. On était revenu il y a 25 ans en arrière, quand Hinault fait une course du début du 1er mars.
C'est ce qu'avait dit Bernard Hinault pendant le Tour de France. Il avait dit Alaphilippe, c'est un coureur à l'ancienne.
Voilà, on est revenu 25 ans en arrière, un coureur qui fait du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, puisque son objectif maintenant c'est les championnats du monde. On est revenu à des et c'est ce que le public veut. On voyait les gens aller plus vers les classiques parce qu'il y a plus d'animation, et là on a vu un Tour de France cette année magnifique. Bon, les parcours avec les anecdotes, un truc insolite comme les deux dernières étapes qui ont été un peu écoutées, ouais, avec les
trois victoires françaises en plus. On y a cru un moment,
on y a cru un moment. Je pense qu'on peut penser déjà qu'on peut réavoir un Français vainqueur. On a eu le potentiel, on se dit il y a une possibilité. On a deux trois jeunes, deux trois Français qui peuvent y arriver. Les Tours de France qui vont venir dans 2-3 ans, là, quand on va voir les Van Der Poel qui vont se mettre intégralement sur la route. Wout van Aert, les jeunes qui vont dynamiser, ça va. Voilà. Même les équipes professionnelles, il va falloir qu'ils revoient un peu leur stratégie de course.
Alors on va rappeler le classement, hein, c'est Bernal, le Colombien, qu'on avait vu gagner au printemps sur les routes du Paris-Nice, donc qui remporte le Tour de France.
Plus jeune vainqueur du Tour.
Plus jeune vainqueur du Tour, ça tombe bien, l'année où on fête les 100 ans du maillot jaune.
Oui.
Donc il gagne devant le vainqueur de l'année 2018, Geraint Thomas. Le troisième, c'est Crosswhite. On va rappeler que Bernal, naturellement, est maillot blanc. Sagan remporte son 7e maillot vert dans le Tour de France, c'est historique. Bardet sauve son tour en ayant le maillot à poids. Alaphilippe est le super combatif, et puis l'équipe donc Movistar remporte le classement par équipe. En plus, ça a été un tour historique. La première victoire d'un Colombien, les 7 maillots verts de Peter Sagan, et puis le plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour. En plus, tour historique.
Tout historique, 100 ans du maillot jaune, ouais. Un départ de Bruxelles, c'est voilà, vraiment, c'était le tour pour réunir tout ensemble.
Et 21 abandons, c'est quand même très faible.
Très très faible, parce que on sentait cette envie des coureurs de continuer. Comme Alfredo, qu'on voit qui a fait quand même 10 jours plus que dans le rouge, hein. Il partait au bout de 35 km, il s'était demandé s'il allait aller au bout. C'était un peu le film qu'on a vu avec Poulvord, mais voilà, c'était ça, c'était le but d'aller au bout. Et puis bon, il est arrivé parce qu'il y avait cette motivation d'un tour très sympathique, même entre les coureurs, entre eux. Voilà, il y avait une entraide, il y avait une motivation, et voilà, ça a permis de faire un très très beau tour.
Oui, Gaël, hein, je l'ai dit, tour historique, hein, qu'on a vécu naturellement avec Hervé.
Tour historique à la fois, tout ce que vous venez de décrire, notamment avec Olivier, au regard de nos athlètes cyclistes, de nos sportifs, et puis j'irai la présence de la France, dans les grands coureurs, je pense que là, c'est indéniable. Tour historique aussi par le fait que pour Rambouillet, ça a été quelque chose d'assez magique, j'ai en parlé dans ces termes-là, de se retrouver sollicité par notamment Christian Prudhomme pour faire en sorte que Rambouillet, justement, soit à l'honneur sur cette dernière étape dans le cadre du centenaire du maillot jaune. Alors pourquoi? Parce que ça, c'est la grande question, là, c'est le politique qui parle un petit peu, tout simplement parce que déjà l'épreuve 2012 est restée gravée dans la mémoire à la fois des coureurs, à la fois des organisateurs et dans la mémoire des spectateurs, de tous ceux qui sont venus. Et donc Rambouillet a été quelque part choisi parce qu'elle offrait les conditions optimales pour pouvoir faire un beau départ de course dans tous les sens du terme, que ce soit à la fois en matière d'organisation, parce qu'on a prouvé cette capacité d'organisation des grands événements sportifs, notamment en plein air, donc ça c'est une chose acquise. On a prouvé aussi qu'on était capable de le faire dans la bonne humeur. Moi, je me souviens de Christian m'exprimant le fait qu'à Rambouillet, les coureurs avaient du mal à quitter Rambouillet en 2012, tout simplement parce que ils s'y sentaient bien et que on n'allait surtout pas précipiter le départ. On allait prendre les choses comme elles venaient parce que Rambouillet était une ville d'accueil et que cet accueil, elle était ressentie jusqu'aux coureurs et aux organisateurs et puis à l'ensemble de tous ceux qui s'occupaient d'organiser, je dirais, le tour sur place. Je dirais carton plein en matière de retour, et c'est une des raisons pour lesquelles 2019, dans le contexte spécifique du centenaire, Christian Prudhomme, ASO, a voulu élire domicile à Rambouillet. Bien évidemment, pour nous, c'est quelque chose d'assez fantastique. Quand après, on a cette chance aussi de pouvoir assister à l'arrivée, on s'aperçoit que Rambouillet était mis à l'honneur au niveau des différents contacts que nous pouvions avoir sur place à l'arrivée à Paris, aux Champs-Élysées. Et pour moi, c'est un élément important parce que ça laisse présager que, bien évidemment, et Christian Prudhomme l'a exprimé, que d'ici 2023, dans le cadre de la convention signée avec le conseil départemental et Pierre Béziers, eh bien, nous allons nous retrouver avec une possibilité d'organiser à nouveau un Tour de France.
C'est une bonne nouvelle. C'est une question que j'allais poser. Est-ce qu'il faudra attendre 7 ans à nouveau?
Non, justement, puisque ça a été exprimé. Alors maintenant, bien évidemment, je n'ai pas ma boule de cristal, mais dans les propos tels qu'ils ont été tenus, ce serait un nouveau départ dans le cadre de la convention qui a été signée. Mmh. La convention, elle a été signée jusqu'en 2023 inclus. Mmh. D'ici 2023, on a encore une chance de pouvoir avoir cet événement-là. Alors moi, mon souhait, moi je vais l'affirmer dans ce sens-là, mon souhait, ce serait d'avoir à nouveau 2023, Tour de France en juillet, 2023, parce que maintenant on est organisé en conséquence, eh bien, un nouveau départ et arrivé Paris-Brest-Paris, et puis bien évidemment que tout ça, ça nous prépare un bel événement pour 2024, qui pourrait être un départ d'un contre-la-montre pour Paris, tiens, dans le cadre des Jeux Olympiques, parce que là, je n'en déborde pas, je peux dire que jour après jour, je laboure le terrain, j'ai eu l'occasion de croiser David l'appartient, à qui j'ai émis quelques arguments, et donc nous devons, la théorie, maintenant j'attends de valider, mais nous devrions nous voir au mois de septembre pour que je puisse aligner les arguments et faire en sorte que 2024 soit pour Rambouillet aussi un moment de fête autour du vélo.
Juste un petit mot, Olivier, et ensuite on envoie la pub. La présentation du Tour 2020, c'est le 15 octobre. Ça part de Nice.
Oui.
Allez, la pub, la musique, et ensuite, on descend de notre bicyclette, on enfourche donc, le cheval, et puis après, on reviendra sur notre bicyclette.
Chef d'entreprise, vous cherchez plus d'espace pour votre activité ? Alors, n'hésitez plus. Dans un environnement dynamique et privilégié dédié à l'entreprise, la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire a créé pour vous un vaste parc d'activités à Rambouillet. Terrain disponible à partir de 1 500 m². Plus d'informations sur www.rt78.fr ou en contactant le service développement économique au 01 30 57 20 61.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold. Le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville. Réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
Génétique en bandoulière des chromosomes. Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Avant de parler donc maintenant de l'équipe rando une semaine après le Tour de France, je voudrais simplement vous dire qu'il y a des courses aujourd'hui à l'hippodrome de Rambouillet. Il y a eu la rentrée donc des courses il y a 15 jours, le 1er septembre, après la belle réunion organisée fin juin concernant donc les poneys. Puis il y aura une dernière course, ça sera dans 15 jours, le 29 septembre, et on retrouvera à cette occasion nos pronostiqueurs hippiques maison, José et Francis, qui profitent encore de quelques jours de vacances. Et puis je voulais, Olivier, quand même avoir une pensée pour deux grands sportifs qui sont partis pendant cette période de sport, qui étaient deux grands gentlemen qu'on a eu l'occasion de rencontrer et même d'interviewer. C'était Jean-Claude Boutier et puis Felice Gimondi, deux grandes personnalités du sport qui nous ont fait rêver et qui étaient deux gentlemen.
Oui, deux gentlemen.
Et ils sont morts pendant ces événements-là, les Kirando pour Jean-Claude Boutier et Gimondi pour le Paris-Brest-Paris.
Oui, juste avant le départ, oui, je crois. Ouais. Donc, deux très très grands présents dans le monde du sport, et après, surtout, et après, sur leur activité, leur sportif, ils ont toujours été présents après. Oui. En Italie, Gimondi a toujours été présent sur la construction du Tour d'Italie, a toujours été présent. Et Jean-Claude Boutier, on l'a vu dans l'éducation, dans l'entraînement, et puis après, il a fini comme intervieweur, comme journaliste dans la boxe.
Gaël, donc une semaine après le Tour de France, hein, on a eu les chevaux qui ont succédé donc aux cyclistes, entre 800 et 1000 cavaliers, le temps d'un week-end, qui sont venus sur Rambouillet.
Là aussi un pari un peu osé, c'était d'organiser ou de participer à l'organisation d'une manifestation de cette envergure une semaine après le Tour de France. Parce que malgré tout, en termes d'organisation, on est sur une période estivale où bien évidemment un ensemble de personnel se trouve en vacances, avec des bénévoles potentiels qui sont en vacances. Enfin bref, eh bien, Rambouillet généralement est au mois d'août un peu libéré de ses habitants, on va dire ça comme ça. Et donc ce qui s'est passé là, ça a été encore un défi réussi. C'était de faire venir sur Rambouillet, dans un contexte, on va dire, festif, l'ensemble de ces cavaliers. Tu as parlé de 1000, ils étaient effectivement 1 000, 850 chevaux. Alors pourquoi 1000 cavaliers? Simplement parce qu'au niveau des chevaux, il y avait des attelages. Donc on pouvait se retrouver avec deux cavaliers par attelage, évidemment. Donc on s'est retrouvé avec une manifestation d'envergure, ça a la résonance internationale, qui conforte la place du cheval. Parce que moi, c'est là aussi, j'irai quelque part à chaque fois que je cherche à appuyer une manifestation sportive ou une action sur la ville de Rambouillet, c'est parce que quelque part, je poursuis un dessein. Mon idée, c'est bien évidemment de démontrer que la terre d'Yvelines, le sud yvelinois, est propice à recevoir ce type de manifestation, et puis en plus à développer l'activité qui tourne autour, notamment celle du cheval.
Bah écoutez, s'il y a quelqu'un qui était ravi en tout cas de pouvoir donc participer à cette équipe rando, c'était le président du conseil régional donc de sport équestre, Emmanuel Feltès, et vous allez voir, c'est exactement ce qu'il a dit à notre micro. Je suis avec un homme heureux, monsieur Emmanuel Feltès. Monsieur Feltès, c'est un grand et bon moment qui commence pour le sport équestre.
Super moment, un moment de bien-être, un super moment de plaisir, puisque nous accueillons au haras des Brévières, tout proche de Rambouillet, un millier d'équirandins, c'est-à-dire de cavaliers, qui ont parcouru le superbe territoire des Yvelines avec de superbes chemins. Ils ont fait au minimum 100 km pour se rendre à ce lieu de festivité. Et puis, nous aurons le grand défilé dans la ville de Rambouillet, 1000 poneys et chevaux qui vont en costume, représentant chacun leur région, leur pays, défiler en se présentant jusqu'au château de Rambouillet. Ça va être un superbe spectacle, une très belle fête.
Alors, vous, le président de la Fédération régionale, pourquoi avoir choisi le département des Yvelines? C'est une terre de cheval, on le sait.
Tout simplement, non seulement c'est une terre de cheval, mais la Fédération française d'équitation est la troisième fédération olympique après le football et le tennis. Et le premier département où il y a plus de cavaliers, où il y a le plus de licenciés, c'est tout simplement le département des Yvelines. Donc vous êtes non seulement département des Yvelines, une terre de cheval, mais une terre de cavalières et de cavaliers. Donc, et puis un superbe territoire avec des cheminements, des forêts magnifiques. Et c'est ça que nous voulions montrer. Nous avons eu 9 pays qui sont venus. Toutes les régions françaises sont là et ils ont découvert que l'on pouvait se promener à cheval dans ce département. C'est une vraie satisfaction pour nous.
Dans vos disciplines, il y a plusieurs activités. Hein. On a le dressage, on a l'endurance, on a le saut d'obstacle notamment.
Le cheval se pratique sous toutes ses formes. À pied, à cheval, on peut sauter, faire du jumping, on peut faire du cross, on peut faire du dressage. Mais ce que rêve la population française aujourd'hui, c'est du cheval dans la nature. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la première discipline de l'équitation, se promener à cheval dans la nature, le tourisme pécestre.
Oui, et un sport qui s'adresse, vous l'avez dit, à tout le monde, hommes, femmes, du plus jeune au plus ancien, la plus ancienne.
Tout à fait. La particularité de ce sport équestre, c'est de réunir la famille. Et Dieu sait que c'est important aujourd'hui. C'est un sport que l'on peut pratiquer en famille, petit, moyen, grand. Nous avons des champions olympiques qui ont plus de 50 ans. Donc, on peut monter à cheval tard, voire même très tard. Le plus vieux cavalier licencié de la fédération a 93 ans. Et il monte encore à cheval. Et les plus jeunes ont 2-3 ans. Donc, ça peut se faire vraiment tout au long de sa vie.
Est-ce que c'est un sport qui est cher, contrairement à l'image un peu reçue?
Alors, la particularité de ce sport, c'est qu'il n'est pas pris en charge par les pouvoirs publics. Donc, c'est l'utilisateur qui paye la prestation. Quand on joue au football, c'est vos impôts qui payent effectivement le stade. Là, ce n'est pas vos impôts qui payent le centre équestre. Donc, vous payez le juste prix. Toutefois, et là, il faut effectivement casser un mythe, et merci de me le dire, c'est quoi? C'est tout simplement dire que l'on peut monter à poney en région parisienne pour 50 à 60 euros par mois. C'est de l'argent, mais c'est quand même possible pour de nombreuses familles. Et puis, de plus en plus de municipalités, grâce à leur école des sports, grâce aux programmes scolaires, permettent des aides pour monter à poney et pour monter à cheval. Je dirais qu'un seul mot, faites-vous plaisir, découvrez cet animal merveilleux, quel poney, quel cheval.
Oui, et pour revenir à ce week-end, ça demande des mois et des mois de préparation. Ça fait déjà un an que vous êtes sur le projet.
Oui, un an et demi de travail pour mon équipe, de très nombreux bénévoles. Il y a 150 bénévoles sur cette manifestation qui ont œuvré pour vous offrir ce spectacle. Je les en remercie d'ailleurs en profitant de ce micro.
Oui, puis ça peut attirer encore du monde, un tel week-end.
Tout à fait. C'est le but ce week-end, c'est d'abord de faire plaisir aux cavaliers, mais également de faire plaisir au grand public, de faire découvrir ce que c'est que le cheval. Que le cheval, ce n'est pas réservé à une caste, ce n'est pas réservé à une élite. C'est un sport familial. Et profitez-en, faites-en le week-end, faites-en pendant les vacances, faites-en quand vous voulez. Mais découvrez cet animal, vous verrez, c'est extraordinaire.
Merci.
Merci beaucoup.
Bon, alors cette nationalité était naturellement représentée dans cette équirondo. On va rappeler que la prochaine réunion, c'est en 2021, en Normandie, et puis qu'en France, ça avait été il y a 26 ans, à Provins. Le milieu du cheval et puis, par exemple, du cyclotourisme, ça a des points communs. Ce sont des aventures humaines aussi, Didier.
Et en fait, c'est rigolo, au CTR, bon, on a une grosse activité VTT, et du coup, en région de Rambouillet, on a quand même beaucoup de chevaux. C'est pas rare du tout que le dimanche matin, on croise des cavaliers en forêt. Et en fait, on s'arrête. Ouais. Et d'abord, on a du respect pour le cheval, le cavalier. On ne veut pas lui faire peur. Mais en fait, on s'arrête, on discute et on parle. Tiens, vous avez été là-bas, c'est joli. Et on a beaucoup, beaucoup de points communs. Parce qu'en fait, c'est un sport outdoor, un sport de nature. Et on est dans le même esprit, quoi.
Il y a un peu cette image encore d'un sport un peu sélect dans le milieu du cheval.
Il y a
un
on
peu
a de encore tout, hein. Quelques. Il y a toujours des personnes qui sont toujours placées, se placent au-dessus. On en avait parlé déjà à différentes émissions qu'on avait à RVE avec le monde des caisses. Mais ça a tendance à quand même à changer. Ouais. Je dirais que le VTT. Gérer les bonnes pratiques, hein, bien sûr, il y a toujours des gens, aussi bien que dans le cheval que dans le vélo aussi, hein, qui sont pas très sélects, mais ça a tendance quand même à se rapprocher, à des discussions. Hein. Bon, il y a toujours cet écart sur certaines personnes qui ont toujours ce niveau au-dessus, mais bon, ça a quand même tendance à discuter. Et puis le fait d'avoir discuté il y a depuis quelques années maintenant avec les représentants régionaux et du monde équestre, donc le message a dû passer aussi. Hein, cette discussion, il y a fait.
Donc on va pouvoir maintenant écouter la deuxième interview parce qu'il y a eu un beau spectacle le vendredi soir au Brevières où là il y a eu toutes les facettes du sport équestre qui ont été donc montrées. Ça nous a un peu rappelé la défunte semaine équestre. Et parmi donc ces innombrables spectacles, eh bien, on a eu la démonstration de Pierre Fleury. Alors lui, il est à la fois artiste, dresseur, voltigeur et cascadeur. Et vous allez voir, il présente son activité et son métier. Et je peux vous dire, on l'a interviewé, il y avait une file d'attente au moins d'un bon quart d'heure pour pouvoir donc ensuite obtenir une dédicace soit d'un livre qu'il a écrit soit de certaines de ses affiches. C'est une véritable star et il a fait en tout cas donc l'attraction durant ce week-end consacré au cheval dans notre région. Donc Pierre Fleury qui nous présente un peu mieux son activité.
Pierre Fleury, Pierre, vous avez fait un véritable tabac.
Je sais pas, j'aime pas trop parler de ça, mais on a essayé de faire de notre mieux en tout cas pour présenter quelque chose de correct, et du coup les chevaux ont été bien concentrés. Alors il y a l'herbe, donc ils sont parfois tentés de plus manger que de travailler, mais voilà, je suis content d'eux aujourd'hui.
Oui, alors je l'ai dit, véritable tabac, comment ce sport a commencé pour vous? Dès 4 ans, hein, je crois.
Au tout début, j'ai commencé en fait dans un poney club sur un Shetland comme beaucoup. Ensuite, j'ai pu avoir un poney à la maison et c'était accès CSO. Et malheureusement, bon, c'était un petit peu compliqué avec ce poney-là. Donc j'ai eu quelques accidents, j'ai voulu arrêter. Et je suis revenu aux chevaux en fait grâce à Nissi et Nelson, bah, qui étaient encore là-haut au spectacle, les deux blancs. Et là, c'est une approche qui était beaucoup plus relationnelle. Au départ, je faisais pas grand-chose avec eux, mais voilà, j'essayais d'établir une connexion, une relation que j'avais pas eu forcément dans le passé avec les autres poneys chevaux que j'avais. Voilà, c'est né comme ça et ça a grandi au fur et à mesure.
Alors, dresseur voltigeur, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois gymnaste et cavalier.
Il faut être assez polyvalent, donc oui, il faut avoir une certaine condition physique pour pouvoir tenir. Voilà, c'est comme on dit souvent à cheval, c'est tonique mais décontracté, donc il faut réussir à combiner ça. Mais j'essaie de m'entraîner un peu tous les jours pour ça. Et il y a une technique équestre à avoir aussi. Il y a un savoir et une pédagogie à avoir pour enseigner aux chevaux en fait ce qu'on cherche à leur demander. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir mêler différentes compétences.
Oui, il faut une énorme complicité fatalement avec le cheval.
Oui, une complicité effectivement, et ça passe par du temps passé à travailler, à préparer, mais aussi du temps passé à rester avec eux, à ne rien faire, pour vraiment qu'on soit vraiment comme un ami pour lui. Et c'est pas un mot farfelu que je dis là, c'est entre les chevaux, il y a des liens d'affinité qui se créent. Et là, c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est ce que j'essaye de faire avec mes chevaux, c'est que il y a du travail, il y a des exigences, mais il y a aussi du temps où je suis avec eux à ne rien faire. Je les gratouille, je passe du temps à dormir avec eux. Voilà. C'est un équilibre qu'il faut trouver.
Combien de chevaux vous avez ?
Alors j'en ai 10. Ce soir vous en avez vu 8. Et j'en ai 2 qui sont restés à la maison. Ce sont des pur sang qui sont en cours de formation.
Ouais. Donc c'est un métier à part entière. Hein. Vous êtes un peu partout, dans toute la France, dans le monde entier ? En démonstration
Oui, là où on nous appelle, donc en France et à l'étranger. Alors on est dans le nord de la France, ben, la Normandie, oui, c'est dans le nord de la France. Et on a l'avantage de pouvoir aller en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas. C'est des pays qui sont pas très loin, même si ça nous paraît loin comme ça. Et ces pays nordiques sont très friands de ces spectacles. Donc on se balade un petit peu partout.
C'est un métier connu dans le monde entier, valorisé dans le monde entier.
Alors il faut faire sa place quand même. C'est pas une profession qui est énormément reconnue. Donc effectivement, c'est l'envers du décor. Il faut gérer des chevaux, c'est très lourd. On voit bien les poney clubs, les centres équestres, c'est très lourd. Les infrastructures, les chevaux à entretenir. Donc voilà, il faut réussir à trouver un équilibre. Et moi, j'ai d'autres casquettes à côté de ça. Je fais des cours et des stages pour essayer d'avoir un tout cohérent. Je prends des chevaux au travail à la maison et voilà, tout ça me permet. Ma première activité, c'est le spectacle, mais j'ai d'autres activités comme ça qui me permettent de mettre du beurre dans les épinards.
Oui, parce que c'est un métier qu'on peut faire jusqu'à combien, 35, 40 ans. Après, on est obligé de se reconvertir.
Oui, voilà, où on présente des choses différentes. Moi, c'est vrai que là, physiquement, je suis encore apte à faire beaucoup de choses. Donc, je mêle cascade, voltige, mais aussi émotion. Mais effectivement, peut-être que le spectacle va tendre vers des choses plus soft, on va dire, dans les futures années. Voilà, on verra.
Très bien, mais en tout cas, et les chevaux, Pierre, ça dure combien d'années durent-ils pour faire du dressage ou de la voltige ?
Oui, ça dépend comment ils vieillissent. C'est vrai que moi, ils sont en extérieur à la maison, ils ont une vie assez naturelle, c'est-à-dire qu'ils sont en extérieur, ils vivent en troupeau. Donc, et ça les préserve énormément. J'ai très peu eu d'accidents avec eux. De problèmes de santé, je veux dire pas d'accident, mais moi mes deux piliers, ils ont 18 ans, je vais les arrêter cette année. Ils vont avoir une bonne retraite bien méritée. Les autres là, ils ont 7 ans, 8 ans, 10 ans. Donc voilà, là c'est les belles années, donc ils ont encore de belles années devant eux.
Bon, vous avez un site internet et vous vivez, je crois, en Normandie, hein, près de Deauville.
Oui. Alors, vous pouvez nous retrouver effectivement à Tourgéville, derrière Deauville. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez un site internet, pierrefleury.com, et les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
Donc, Pierre Fleury, belle personnalité, a dépassé dans Rambouillet, c'était lui qui était en tête du défilé.
Après, ça a été plus d'une heure de passage de chevaux et de costumes traditionnels. C'était vraiment un beau défilé. Beaucoup de gens qui étaient un peu évalués sur le bord de la route.
On redescend de cheval et on renfourche notre bicyclette après la page de pub et la...
la rentrée. Du 16 septembre au 5 octobre, La Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie reconnu au Grenelle de l'environnement, vous fait profiter d'une offre exceptionnelle. Bénéficiez de 100 euros de remise par tranche de 1000 euros sur nos gammes de fenêtres, portes, volets, portails et portes de garage. Et à partir de 5000 euros d'achat, repartez avec votre coffret Smartbox. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Les devis sont toujours gratuits. À Bassienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions en magasin, offre non cumulable avec toute offre en cours. Coffret Smartbox offert dans la limite des stocks disponibles.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry Pontin.
RVE, vivez votre région. RVE sur radio-rve.com.
We'll be right back.
retrouvez le sport dans votre région avec RVE.
Didier, c'est des belles aventures, on l'a dit, hein, on a eu notamment notre ami Robert Coquet, un breton qui a fait ça en 44 heures, 47 minutes, 36 secondes, ça c'est le vainqueur, enfin le premier, celui qui est arrivé, devant un Slovène qui lui a fait ça en 44 heures, 48 minutes et 47 secondes, et puis un Belge, Ken Fox, qui lui a fait en 45 heures, 1 minute et 25 secondes. Alors c'est pas la même optique qu'une course cycliste, mais c'est quand même des belles aventures.
C'est du cyclotourisme, c'est pas avec l'image cyclotourisme où on est tranquille et on roule à 10 à l'heure.
Il faut gérer la nuit, il faut gérer son alimentation.
C'est de la gestion permanente. En fait. Vous devez gérer vos pauses. Forcément, il faut faire attention à pas faire trop la queue. Par exemple, dans les contrôles, des fois, il y a trop la queue. Les gars préfèrent aller manger carrément dans une autre ville avec une boulangerie ou quelque chose comme ça pour gagner du temps sur ces trucs-là. On doit gérer ces temps de pause. Alors, les premiers, ils ont pas de temps de pause. Ils arrivent au contrôle. Ils ont des gens qui leur changent les bidons, qui leur mettent la bonne nourriture dans la poche en fonction. Tout est préparé. Derrière, on a des gens qui sont en autonomie complète. Ils sont partis avec des petites sacoches, etc. Et eux, ils vont tout gérer. Ils vont gérer leur temps de pause, ils vont gérer leur nourriture. Ils sont partis pour mettre peut-être 85 heures. Et voilà, ils savent qu'il faut rouler à une certaine vitesse pour tenir ce délai-là. Et d'ailleurs, cette année, pour la première fois, sur le site du Paris-Brest, on pouvait suivre tous les participants en regardant par rapport à leur numéro de plaque. Et on a vu très bien les premiers qui sont partis à un peu plus de 30 de moyenne. Et nous, bien sûr, on suivait les rambolitains qui étaient inscrits. On avait 5 personnes du CTR. Et eux, ils sont partis, ils roulaient à 18 km/h.
Ah ouais.
Donc, il y en a, ils sont vraiment dans la gestion. Et c'est super important, quoi.
Et puis il y en a qui ont fait leur premier donc Paris-Brest-Paris qui sont allés au bout. On a Scoart Chevreuse là qu'on connaît bien qui fait avec Stéphane Schubert les quatre châteaux qui est allé au bout. Vous avez aussi des anciens rambolitains comme Christophe Bocquet ou ce restaurateur parisien Thierry Breton. C'est vraiment des histoires merveilleuses, fabuleuses.
Thierry Breton, ouais. C'est juste une histoire de fou. Hein. Un gars qui est arrivé à Brest se permet de dire je laisse tomber. Il prend des huîtres et du vin blanc.
Ouais.
Ça court pas tous les jours. Après il y a le petit truc où à Dreux il s'écroule complètement dans le vestiaire. Il s'endort immédiatement dès qu'il touche le sol. Et là, ses cousins lui jettent un seau d'eau pour le réveiller en lui disant, faut que tu partes tout de suite. Parce qu'en fait, il y avait toute une petite histoire, lui. Il avait 50 ans et il voulait mettre moins de 50 heures.
Et en fait,
il met 49 heures, 50 minutes et 30 secondes.
Ah, tiens, justement, parmi tous les concurrents qui sont venus participer à ce Paris-Brest-Paris, on va écouter Eric Emmanuel. Il vient de la Drôme et juste avant le départ, il nous a parlé un peu de quelles étaient ses ambitions. Et lui, il a gagné le pari de faire ça en moins de 80 heures. Eric Emmanuel, d'abord, allez, vos sentiments, vos impressions, quelques minutes avant le départ.
Bon, ma première impression, déjà, je me qualifierais plus de participant que de concurrent, parce que c'est vrai que c'est pas une compétition, c'est plus un défi lancé à soi-même que par rapport aux autres. Et puis j'y vais à la fois avec confiance, et puis en même temps, je sais pas trop ce qui peut m'arriver, hein, parce que tout est possible sur une telle distance.
Bon, c'est votre premier, Paris-Brest-Paris ?
Oui, c'est mon premier.
D'accord, alors, ça demande des années et des années de préparation, je suppose. Hein. C'est une épreuve qui se déroule tous les 4 ans, mais on se prépare bien avant.
Oui, pour moi, c'était au minimum bien 2 ans de préparation à faire des longues distances. Ça s'improvise pas.
Pourquoi Paris-Brest-Paris ? C'est un défi, c'est un rêve que tout cyclo souhaite un jour donc réaliser.
C'est à la fois un défi personnel et en même temps, c'est la rencontre de cyclos longue distance du monde entier. C'est chouette de voir cette belle fête du vélo.
Toutes les nationalités sont là. On a entendu parler japonais, italien, anglais, grec, danois.
Oui, rien que ça, ça justifie de faire ce voyage. Parce que ceux qui aiment la longue distance sont pas si nombreux, donc c'est vrai que d'en voir autant rassemblés sur la même épreuve, c'est fantastique.
Bon, il n'y a pas une petite appréhension avant le départ, parce que bon, ça va pas être facile. Vous allez connaître des moments compliqués, peut-être une météo aussi incertaine.
Oui, il y a une petite appréhension. Clairement, il va falloir que je me freine pour pas partir trop vite aussi, parce que il y a de la longueur à faire, quoi. Donc oui, c'est pas totalement évident.
Oui. Oui, alors à quoi on pense comme ça quand on est sur la route, dans le noir, dans la nuit, dans le mauvais temps
On pense à plein de choses différentes et parfois on pense à rien. Et ça dépend des moments en fait. Il y a des moments où on philosophe et puis d'autres moments où on est un peu dans le vide.
On s'entraide entre concurrents. Je suppose que vous avez aussi des potes, des copains qui sont là.
Oui, j'ai un copain qui est là, donc il part un petit peu plus tard, mais je pense qu'il me rattrapera rapidement. Et puis bon, c'est vrai qu'on cause aussi avec les uns les autres sur le trajet. Dans les moments plus difficiles, ça compte aussi.
Bon, vous avez un temps imparti ?
Oui, 80 heures.
Donc ça va être le défi de le faire.
Ça va être un peu serré pour moi, 80 heures, c'est pas facile.
Vous allez avoir des haltes, des arrêts, vous allez dormir aussi un tout petit peu.
Oui, des haltes toutes les 80 km à peu près, et puis je compte bien dormir sur la deuxième nuit et la troisième nuit quelques heures.
Qu'est-ce qu'on mange ? Comment on se ravitaille sur une telle épreuve, sur ces 80 heures ?
Il y a soit des sandwichs un peu restauration rapide, soit des selfs. qui sont prévues. Donc il faut pas oublier de manger parce que sinon on va pas loin.
Et puis vous avez aussi peut-être des gens qui sont au bord des routes qui vont vous encourager, qui vont peut-être justement aussi vous permettre de vous ravitailler.
Peut-être aussi, ça on verra, c'est un peu le mystère aussi de cette belle épreuve.
Bon, quand le pari sera gagné, vous serez un autre homme fatalement.
Bah oui, c'est sans doute. Oui.
Très bien, merci, bonne chance. Ça monte un peu moins que dans la Drôme quand même.
Oui, c'est clair, oui. C'est pas tout à fait le même profil de route.
Belle histoire aussi de ce coureur. On va écouter aussi maintenant Thierry Rivet, le président de l'Audax Club parisien, qui nous parle un peu de l'historique de ce Paris-Brest-Paris. Thierry, ça y est, nous y sommes, on est en plein dedans.
Ah oui, après des mois, voire des années de préparatifs, ça y est, c'est la fête. Les randonneurs du monde entier sont là. C'est une communion entre tous les participants et ça fait vraiment plaisir. Et en plus, le soleil est revenu.
Oui, alors vous l'avez dit, plus de 6000 participants, 66 nations, c'est fou quoi.
6674 inscrits, presque autant au départ, et puis 66 nations, oui, c'est vraiment une épreuve internationale depuis quelques années.
Alors comment on met ça sur pied? Parce que c'est des mois, même voire des années de préparation.
Oui, eh bien, il y a un noyau dur qui bosse dur pour organiser ça. Et puis après, on fait appel aux bonnes volontés pour venir renforcer les équipes.
C'est-à-dire qu'il y aura des bénévoles dans chaque ville et village traversé?
Tout à fait. Ici, à Rambouillet, il y en a un peu plus de 200. Mais sur l'ensemble du parcours, ce sont 2500 bénévoles environ qui vont aider, encourager tous les participants qui vont venir à leur rencontre.
Oui, sans compter ceux qui font l'assistance, qui suivent les coureurs. Hein.
Bien sûr, oui, il y a les familles et les amis qui sont très désireuses, très demandeuses de ça. Et donc, quand ils ne peuvent pas les suivre sur Internet, ils les suivent sur le terrain.
Oui, alors, ça permet aussi aux communes, aux régions, aux départements de travailler ensemble et de bien se connaître, comme par exemple Rambouillet avec la Bretagne.
Ah oui, y a des liens qui se tissent avec les élus, avec les habitants, avec tout le monde. Et bon, c'est vraiment très bien.
Alors Thierry, on va rappeler que les premiers sont attendus mardi matin, à peu près après une quarantaine d'heures.
Je pense qu'au bout de 42 heures, il y en a qui viendront à bout des 1219 km du parcours.
Oui, le but c'est ça, hein, c'est d'être dans les temps, dans les 80-90 heures.
Oui, donc ils peuvent choisir trois délais, 80, 84 ou 90 heures. Et bon, s'ils rentrent dans les temps, ils sont homologués.
Ensuite, on est un autre homme, on a abouti, on a réalisé le rêve de sa vie.
Ah oui, il y en a vraiment, ils ne pensent qu'à ça, ils rêvent de ça depuis des années et tout. Et bon, il y en a qui se sont vus refuser la participation parce qu'ils n'avaient pas les brevets qualificatifs ou parce qu'ils n'avaient pas pu s'inscrire faute de place. Et ils sont vraiment désespérés. C'est vraiment quelque chose qui fait rêver les gens. Et il faut y être pour tout cyclo digne de ce nom.
Et cette dimension mondiale, internationale, c'est une vieille épreuve qui existe depuis très très longtemps, qui est à l'origine du gâteau d'ailleurs qui existe, le Paris-Brest.
Oui, donc au début c'était une course en 1891, c'était la première édition. Et puis en 1910, il y a un boulanger de Maison Lafitte qui a eu l'idée de faire un gâteau en forme de roue de vélo pour l'édition de 1911. Et nous, notre club, le Dax Club Parisien, organise le Paris-Brest-Paris Randonneur depuis 1931. Et on en est aujourd'hui à la 19e édition, parce qu'il y a eu des périodicités de 10 ans au départ, de 5 ans ensuite, et maintenant on fait ça tous les 4 ans.
Et puis cette dimension maintenant très internationale, c'est fou quand même. Hein. Tous les médias sont là, tous les grands médias sont là.
Oui, ça fait plaisir. On n'a pas toujours eu autant de couverture médiatique. Et là, ça fait vraiment très plaisir.
C'est une belle histoire, hein. On l'a vu, le Paris-Brest-Paris. Il y a tout un historique aussi, Didier, sur le Paris-Brest-Paris. Hein.
Le Paris-Brest-Paris, c'est un ensemble d'aventures humaines. Ça soit dans les participants, que ce soit dans les bénévoles. C'est juste, c'est extraordinaire, quoi. Les gens, ils sont au milieu de ça et ils vivent quelque chose d'extraordinaire. J'ai passé une nuit à emmener des gens prendre des douches au gymnase du Racinet. Et à un moment donné, dans la voiture, j'avais un Américain. Et on parlait un petit peu du bénévolat. Et là, il fouille dans son sac. Il me sort un pins et il me dit voilà, c'est pour vous. Ouais. Et c'était un pins de son club, les randonneurs de San Francisco.
Ah ouais, c'est bien. Voilà. Oui, et puis il y a eu tous ces coureurs qui ont été hébergés, même par des habitants. Ça aussi, c'est phénoménal.
Et en fait, alors là, c'est très très drôle, c'est qu'on héberge des gens qu'on ne connaît pas.
Oui.
Ils arrivent et derrière, on garde le contact. Moi, j'ai hébergé quelqu'un des Pyrénées. Il m'appelle régulièrement. Il y a Paul de la brasserie de la Reine qui a hébergé un ch'ti. On a dit, tiens, un ch'ti chez un brasseur, c'est quand même un gros clin d'œil. Ah ouais. Et c'est pareil, il s'envoie des textos et il continue. Donc, il y a vraiment une aventure humaine et il y a des liens qui se créent.
Bon, bah, on a retrouvé Gaël Barbotin. Du coup, c'est lui qui va finir cette émission. Gaël, on va finir sur cette belle aventure humaine qu'on a vécue à travers ces trois grandes manifestations. Hein.
Alors, on se retrouve, oui, avec donc, cette belle aventure humaine sur l'ensemble des épreuves sportives hein, qui se sont déroulées sur Rambouillet. Oui, ces histoires de vie, ces tranches de vie, je les ai entendues, je les ai lues, et notamment, je pense à ce monsieur Breton, franchement, là, c'est extraordinaire d'entendre le défi qu'il s'était donné. Là, on est vraiment dans le sens que l'on peut donner à ces manifestations, en tout cas à l'engagement que le monde associatif, les bénévoles, etc., peuvent donner à tout ce qu'ils veulent mettre en place. Donc, moi, je suis bien évidemment dans cette idée de poursuivre, de continuer à avancer sur ce chemin du défi sportif en Sud-Yvelines, parce qu'on a les hommes pour le faire, parce qu'on a le territoire pour le faire, parce qu'on a les infrastructures, même si elles ne sont pas encore parfaites, eh bien, sont une réponse, en tout cas, à l'activité sportive, je dirais, de haut niveau, et chacun trouvant son haut niveau. Eh bien, voilà, moi, je pense que là, l'alchimie aidant, eh bien, on a un véritable potentiel, et que, au travers de ces trois grandes épreuves de cette année, de ce mois d'août, eh bien, effectivement, Rambouillet était la terre du sport, la terre du sport de plein air et la terre du sport, je veux dire, de masse, dans ce bon sens du terme, ouvert au plus grand nombre. Et pour moi, ça, c'est important. Moi, c'est mon défi, en tout cas, c'est de pouvoir apporter des réponses dans ce contexte et de faire vivre, bien évidemment, Rambouillet. Tu parlais tout à l'heure des commerçants. On parlait aussi, je dirais, justement, des capacités d'accueil, c'est-à-dire d'avoir des bons moments, je dirais, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à découvrir ceux qui viennent de l'autre côté de la planète. J'ai là aussi, moi, parmi mes amis, certains qui ont eu chez eux, donc des Japonais. Voilà, ne sachant pas parler le japonais, ça a été un peu compliqué. Ils ont trouvé au travers de l'anglais, certainement, les moyens de communiquer et peut-être plus encore par les gestes. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est des belles rencontres. Et je pense que on peut que se réjouir de la manière dont les choses se sont passées cette année. Alors l'équirando, puisque tout à l'heure on a été interrompu aussi sur cette partie-là, l'équirando bien évidemment remplit complètement, je dirais, cet objectif à la fois de rencontres merveilleuses autour justement du cheval. Donc j'expliquais que tout à l'heure on se retrouvait avec un aléa particulier qui est celui de l'animal au milieu du domaine sportif. Eh bien, c'est une dynamique supplémentaire, je dirais, à prendre en ligne de compte quand on organise une manifestation de cette nature, parce que, bah, évidemment, un cheval, il faut s'en occuper, il faut le nourrir, il faut lui donner à boire, faut l'entretenir, on va dire ça comme ça, mais on peut pas le remiser, je dirais, quelque part dans son écurie et puis attendre la saison suivante en même temps. On est obligé, je dirais, d'être, je dirais, petit soin supplémentaire par rapport à d'autres sports. Donc là, on a des vrais enjeux, des vrais défis à relever, et je pense que notre territoire est prêt pour ça.
Très bien, merci Gaël de nous avoir accordé un peu de temps durant ce week-end de repos, et puis bon retour sur Rambouillet.
Bon, c'est un vrai plaisir.
Voilà. À très vite. Et puis merci pour ce bel été. Merci Olivier.
Merci.
À très bientôt. Place à la gentleman. Et puis, j'ai oublié de dire, les bénévoles qui ont travaillé avec vous, ils vont être remerciés le 5 octobre.
Hein, le 4 octobre, on fait le repas des bénévoles. Voilà. Parce que c'était quand même plus de 100 bénévoles sur le 28 juillet. Donc, voilà.
Ça sera un repas qui sera où ?
À la salle des fêtes de Poigny-la-Forêt.
D'accord, très bien. Merci. Merci Didier. Bravo en tout cas.
Merci.
Hein,
merci.
Et puis à très bientôt. Allez,
à très bientôt.
Merci à toutes et à tous. On va remercier Arthur d'avoir été ce matin aux manettes. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Tiens, on est en 10h-11h. Je vous réserve.
RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, un acte 44 des Gilets jaunes marqué par de nouveaux heurts à Nantes. 1800 personnes ont répondu à l'appel d'un rassemblement national hier. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre, 35 personnes interpellées, 5 policiers blessés. La maire de Nantes, Johanna Roland, condamne les actes des casseurs sur Twitter et affirme « Nantes ne veut plus de samedi d'affrontements dans son centre-ville ». À noter également des heurts en fin de parcours à Nancy où 700 Gilets jaunes ont défilé. À Paris, le cortège s'est dispersé dans le calme. Si l'élection pour la mairie de Paris avait lieu aujourd'hui, Anne Hidalgo serait réélue, c'est ce que révèle un sondage IFOP pour le journal du dimanche et Sud Radio. La maire PS sortante arrive en tête des intentions de vote avec 24% des voix, 7 points devant le candidat investi par La République En Marche, Benjamin Griveaux. Cédric Villani, le marcheur dissident, pointe au troisième rang avec 15% des intentions de vote. L'Afrique de l'Ouest organise sa lutte contre le terrorisme. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prévoit 1 milliard de dollars sur 4 ans pour combattre le djihadisme. Cette année, des groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique ont renforcé leur présence dans la région du Sahel. Conséquence, de vastes territoires sont devenus ingouvernables. La violence ethnique locale est attisée, notamment au Mali et au Burkina Faso. Boris Johnson affirme que d'énormes progrès sont en cours avec Bruxelles pour aboutir à un accord sur le Brexit. Dans un entretien pour le journal Mail on Sunday, le Premier ministre britannique en